Léon Cladel, type de fille, tout enfant encore, déjà rongé par le mal de misère qui dévore ses pareils, elle avait été violentée, souillée par le frère de sa mère, une espèce de souteneur, et celui-ci, surpris en flagrant délit par le père de la victime, un veuf trop laid et trop pauvre pour convoler, avait été si bien rossé qu'il en creva, défloré ainsi, puis battu et chassé du taudis paternel, elle erra, rôda, loqueteuse et famélique. Assez timidement d'abord, et ensuite elle racola sans vergogne, et afin de ne pas être soumise au contrôle de la préfecture, elle fut bientôt contrainte de se livrer à divers agents des mœurs, et même à des agents de la ville, des sergents de la ville, qui, moyennant qu'elle leur accordât ses faveurs, fermèrent les yeux sur son commerce. L'un d'entre eux lui communiquera le mal dont sont souvent morts un Valois, plusieurs Bourbons et tant d'autres monarques du globe. Empoisonnée, elle infectait les passants qui l'approchaient. Son état empira tellement que, une nuit, elle fut ramassée à demi pourrie sur le trottoir où elle exerçait et transportée presque aussitôt à Saint-Lazare, presque morte. Et de cette prison à l'hôpital de Vincennes, et après un traitement très énergique et non moins long, elle en sortit épurée, mais immaculée, ayant alors 18 ans à peine. Une mégère l'embaucha, et de la patedoire que régissait avec aidé de plusieurs ruffians, cette immonde matrulle, elle passa dans un autre lupanard de la rue Montyon, et de là, chez la Farcie, maison de luxe, Eldorado, des haras féminins tolérés, voire protégés par la police et jugés indispensables par la morale. En ce cloaque doré, qu'il y a 20 ans, les blancs-becs comme les barbons de la bourgeoisie et de l'aristocratie hantaient avec assiduité, les étudiants du quartier latin n'y allaient guère que les jours où la poste leur avait apporté des 33 provinces, ou plutôt des 86 départements de l'Empire, une lettre chargée de 200 ou 300 francs mensuels destinés à l'entretien de chacun de ces joyeux docteurs en herbe. On traversait gaiement les ponts ce soir-là, puis de l'autre côté de l'Aulne, on se grisait à la Maison d'Or, ou chez Vachette, et l'orgie se terminait à la Chaussée-d'Antin, habitacle des plus piquantes, sinon des plus fraîches, vestales de Lutèce, en dépit des tribulations au faubourg du Temple, et malgré les drogues dont on l'avait saturée à la léproserie de la rive gauche, Elle était encore très belle, cette gueuse, et fort courue. On se la disputait à prix d'or. Et même pour l'avoir à son à soi 24 heures durant, on s'inscrivait une semaine à l'avance sur des registres clandestins. À cette époque-là, son cœur n'avait jamais battu. Cupidon, qu'est-ce que c'est que ça? Chantait-elle avec des gestes diaboliques et d'une voix si céleste que ses innombrables et frénétiques adorateurs en redemandaient de plus en plus. Et ils la surnommèrent l'ange de l'enfer. Elle vit à ses pieds et dans ses bras des princes du sang non encore déchus et des rois de la banque qui, du moins en tant que financiers, n'avaient pas encore failli. Tous ces dépravés en rut perpétuelle se ruaient à l'assaut de son corps si merveilleusement ciselé qu'un sculpteur, épris devant tant de vénusté, la moula, reproduite en marbre, cette vénérienne figure aujourd'hui dans une basilique romane et devant sa statue s'agenouille chaque jour en la contemplant, toutes les ferventes qui, pour la rémission de leurs péchés charnels, se fient à l'intercession mystique des martyrs et des vierges, surtout. Teresa, qui s'appelait réellement Euphémie, apprit tout d'un coup ce que c'était que ça, parmi les taureaux, les pourceaux, les béliers et les boucs qui l'assiégeaient sans cesse. Elle découvrit un lion, et dans son âme avilie de catin, naquit un indomptable amour de pucelle. Épris d'elle aussi, foudroyé par sa beauté monumentale, il perdit toute réserve et devint comme fou. Né de hobereaux calvinistes et rigoureusement élevé, cet initiateur, ayant longuement lutté contre soi-même, fut vaincu. Les lys se poussent parfois sur du fumier et l'amour germe dans l'ordure. Et en cette occasion, il naquit et s'y développa, voulant sa maîtresse à lui seul, l'amant, un mois et demi durant, l'accapara. Mais après ce laps de temps, en sa bourse, plus un sou. Pas d'argent, pas de Suisse, et pas de Dulcinée non plus, n'est-ce pas? Fils de Cervantes, ô Don Quichotte! Elle-même, ayant horreur du partage, feignit une indisposition, et les médecins qui se trompent et que l'on trouve si facilement, lui délivrèrent un certificat constatant son incapacité au travail. Alors, tandis qu'elle chômait, il s'organisa de son mieux à la tirer de là. Mais rien, il ne trouva rien. Elle devait 2 000 francs à la directrice et celle-ci tenait à sa créance, qui n'eut plus eu aucune valeur, la débitrice n'étant plus là. Donc, aucune permission de sortie ne lui fut accordée. À cette pensionnaire amoureuse d'un tel client, et lui le pané, qu'elle choyait, elle, cette idiote, morfondit aux alentours de l'autre, dont on lui défendait rigoureusement le seuil. La rousse avait été prévenue, Mais comme à ses yeux, les demoiselles de pareille trempe ont toujours tort, et la dame qui spécule sur elle et les gruges a toujours raison, elle veilla. Mais toute femme finit par obtenir ce qu'elle désire. Il fut averti qu'elle était prête à le suivre n'importe où, bon gré mal gré. Fort bien, dès le lendemain, il entra dans ce maudit taudis infernal, la joignit et l'entretint. Elle était quasi nue. On essaya d'interrompre la conversation. Il n'avait pas payé. Donc, à lui de ramener en haut après l'avoir soldé, ou bien leur déguerpir aussitôt. De deux choses l'une, il n'avait pas de milieu, et ce gentilhomme, absolument à sec, se conduisit héroïquement en voyou. Sans tergiverser, le moins du monde, ayant enlevé son idole à la force du poignet, il la campa sur son dos et, fondant sur les 5 à 6 cerbères aboyant contre lui, les renversa, les meurtrit, au point qu'ils en furent toujours marqués. Entrebâilla la porte dont il avait brisé les chaînes, et terrible, irrésistible, après savoir ôté les ergots et les ruffians qui lui barraient le passage, il courut, ensanglanté, acéré, mordu, vers un fiacre accosté dans les environs, et s'y jeta, baisant éperdument la belle, enfin conquise, et dans le peignoir, en batiste, voletait en lambeaux autour d'elle. Et au galop, cocher! Et celui-ci, dont la patte avait été préalablement graissée, fouetta. 25 minutes plus tard, ils débarquèrent dans un nid inaccessible aux bêtes de proie, ailées ou non. Ils y roucoulèrent, ces deux pigeons, à l'abri des renards et des loups, des milans et des buses. Une année entière, ils gîtèrent là, s'évançant à l'aise. Et quand ils n'eurent plus un sou vaillant, aucune sorte de ressource, on les en expulsa. Et plutôt que de le trahir, elle, si banale, eut tout souffert. Et lui, ne recevant plus un centime de ses parents, tout entreprit pour la conserver. Hélas, après avoir roulé de bas-fond en bas-fond, épuisé, le calice de la misère, ils disparurent. Et ce n'est que 10 ans plus tard, au hall central dont on construisait le dernier pavillon, que je sus la fin de leurs histoires d'amour. Aux abords de Saint-Eustache, une ménagère en cheveux gris et le visage avait de petites véroles, m'avait arrêté, puis demandé si je la remettais. Sur ma réponse négative, elle dit: Euphémie, ah, bien! Et lui, mort. Oh, quand et de quoi? Ben, il y a 5 mois, un mouffetard, et de n'avoir pas assez mangé. Maintenant qu'il n'est plus, je lui suis aussi fidèle que je lui fus toujours de mon vivant. Ensemble, nous avons fort pâti, mais nous nous sommes franchement aimés, lui et moi.